La 25e conférence sur le sida à Munich a eu lieu en juillet dernier et elle a été l'occasion de prendre acte d'importantes avancées médicales. Je vous rappelle qu'il y a près de 10 000 personnes provenant de 175 pays qui ont participé à cette conférence et ça regroupait des professionnels de la santé, des scientifiques et aussi des personnes issues des milieux communautaires et militants. Rappelons que cette première pandémie jamais déclarée par l'Organisation mondiale de la santé a fait jusqu'à aujourd'hui 42 millions de morts et elle affecte encore cette pandémie 39 millions de personnes, dont les deux tiers se retrouvent en région africaine. Ken Montes est le directeur général de la COX-SIDA. C'est un organisme qui chapeaute 36 organismes communautaires qui soutiennent les personnes vivant avec le VIH au Québec ou qui font de la prévention ou encore qui militent en faveur de meilleurs traitements et pas seulement médicaux. On parle de sociaux aussi et légaux. Bienvenue à l'émission, Ken.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir de te recevoir parce qu'il y a des choses importantes à dire. Commençons par pourquoi les organismes communautaires comme la COX-SIDA sont invités à cette conférence.
Mais invité. Ce qui est intéressant, c'est que la conférence, la cinquième conférence en 89, ouais, a eu lieu à Montréal et c'était l'occasion où les militants se sont invités à la conférence pour dire « Vous ne faites pas ça sans nous ». Et donc, c'est très, on peut en être fiers, mais depuis cette date, il y a toujours une implication des personnes concernées à chaque conférence.
Alors justement, c'est quoi le message des organismes comme le vôtre quand vous participez à cette conférence?
Mais c'est un rappel. Donc un rappel qu'on parle de personnes. Mmh. Et c'est pas la science pure qu'il faut poursuivre, qu'il y a des conséquences pour les personnes. Il y a aussi des injustices qu'il faut régler avant qu'on soit en mesure de régler le VIH et de le rendre obsolète comme enjeu de santé publique.
Oui, parce qu'on semble oublier que ça existe encore.
Hein? En effet.
Bien, je vais sauter quelques questions. Je vais revenir là-dessus sur les découvertes médicales. Justement, c'est quoi ces enjeux, ces injustices que vous dénoncez?
Mais c'est pas toujours voulu, mais j'étais dans une session où on parlait des avancées scientifiques en surveillance et comment qu'on pouvait voir, donc avec des mesures génétiques, d'où vient le virus. Et il y a un couple de personnes d'ici, ouais, en effet, qui se sont levées à la fin pour poser des questions concernant l'éthique, l'aspect éthique de surveiller de près les personnes qui sont surveillées et surcriminalisées et comment que c'était une menace. Et donc, je pense que parfois les scientifiques, les cliniciens se perdent dans les avancées de la science, de qu'est-ce que ça peut nous donner, sans penser des effets sur des populations qui sont déjà très stigmatisées.
Oui, parce qu'on parle ici de personnes souvent marginalisées. On peut parler de personnes travailleurs ou travailleuses du sexe. Ça peut être des personnes d'orientation ou d'identité de genre marginalisées aussi. Et ces personnes-là sont déjà stigmatisées.
Et dans un contexte de criminalisation, de non-divulgation du VIH, ouais, où ça peut facilement tourner contre nous.
Mais justement, parce que le Canada, faisons une parenthèse, là, le Canada, ça fait depuis en 2022, j'étais à la conférence quand le gouvernement a annoncé « Nous allons faire ce qu'il faut pour décriminaliser la non-divulgation, pour expliquer aux gens ce que c'est la non-divulgation. » Qu'est-ce que c'est, Ken?
La non-divulgation?
Oui.
C'est quand une personne ne divulgue pas son statut, une personne vivant avec le VIH, oui, ne divulgue pas son statut à son partenaire sexuel.
Au Canada, est transmissible.
Oui, c'est ça. Donc, mais au Canada, depuis quelques années, donc la Cour suprême a décidé que ça prenait non seulement une charge virale basse et donc traitement en continu et l'utilisation de condom pour ne pas avoir l'obligation de divulguer son statut. Donc, on sait que c'est obsolète comme pensée, mais le système juridique ne bouge pas aussi vite que le système scientifique. Et on sait maintenant, et toutes les autorités de la santé publique l'acceptent, qu'une charge virale indétectable veut dire qu'on ne transmet plus par voie sexuelle, le VIH.
Et ça, on le sait aussi parce que les mamans qui ont le VIH et qui prennent leur traitement ne transmettent pas le virus à leur bébé. Alors, ça fonctionne vraiment, là.
C'est ça. Ouais. Ça fonctionne très bien. Et on doit penser à quel soutien qu'on offre aux personnes vivant avec le VIH pour avoir accès au traitement, pour bien prendre leur traitement, pour ne pas être stigmatisés pour prendre leur traitement.
Je vais rester rapidement dans les questions sociales et légales parce que puisqu'on est là-dedans, il y a d'autres facteurs qui causent des problèmes à toutes ces démarches pour trouver des solutions au VIH. On peut parler de... le travail du sexe, la criminalisation des drogues.
Oui, en effet. Et ce sont des choses qui éloignent des personnes de ces populations des ressources en santé. Donc, éloignent des travailleuses, travailleurs du sexe et les gens qui utilisent les drogues des services de santé, mais des services de prévention, des fois aussi. Donc, ce sont des populations qui sont très vulnérables à cause de ce qu'ils font, mais il n'y a pas une bonne raison de les stigmatiser et les éloigner de la santé. On devrait les rapprocher des services de santé.
Donc, on a parlé de grandes découvertes, de nouveaux médicaments qu'on appelle, entre autres, la PrEP. Là, c'est des médicaments qu'on prend pour ne pas attraper le VIH lors de relations sexuelles, entre autres, et de tout plein de nouveaux traitements qui coûtent cher.
Oui.
Et ça, c'est un problème.
Très gros problème. Donc, c'est un problème ici, mais c'est un problème insurmontable dans le Sud, dans les pays du Sud.
Quand je disais que la plupart les deux tiers des personnes atteintes du VIH sont des personnes en Afrique, on comprend d'où ça vient, là.
En effet. Et donc, on a eu une magnifique nouvelle d'une PrEP injectable aux 6 mois. Donc, imagine, 2 injections par année, ça frôle l'idée d'un vaccin.
Tout à fait.
Et qui protège, qui a été, pour une fois... testé avec les femmes. Mm. Ça a fonctionné à 100%.
Mais il y a un mais.
Oui.
C'est quoi le problème?
Mais. Ouais. Le mais, c'est que le prix, selon donc le prix n'est pas encore établi, c'est nouveau, mais ça risque d'être autour de 40 000 $ par année.
40 000 $
Et donc, il y a beaucoup de monde qui pousse pour que ça soit... donc, que le brevet soit partagé avec les compagnies génériques pour les pays en développement, que ça tombe à 40 $ l'injection au lieu de 20 000, disons. Mais je ne peux pas imaginer qu'on serait très heureux de payer 40 000 $ par année ici non plus.
Non. Des fois, je me demande comment on peut justifier ces prix-là, mais en tout cas, ça, c'est une autre question. J'ai toujours pas compris. J'ai fait plusieurs entrevues avec des compagnies pharmaceutiques et je ne comprends toujours pas la logique derrière ça. Bon, en tout cas, peut-être que je ne suis pas assez intelligent.
Ou trop intelligent.
Merci, Ken. Maintenant, on a trouvé ce 7e patient.
Oui.
Qui a guéri du VIH.
Oui, c'est ça. Et donc, la bonne nouvelle pour cette personne, c'était que jusqu'à date, les 6 autres étaient par un greffe de cellules souches, mais de personnes qui avaient...
Une mutation.
Une mutation génétique, mais qui éliminait de deux manières le récepteur CCR5. Okay. Donc, c'est une des façons que le VIH peut entrer dans les cellules. Et cette 7e personne, ce qui est intéressant, c'est que le donateur ou la donatrice de cellules a eu une mutation qui donnait une seule protection contre CCR5. Donc, ça augmente donc le nombre de donateurs possibles dans le monde. Parce que la mutation avec les deux protections, c'est comme une personne en 100 000 et il y a 10 fois le nombre de personnes avec une seule mutation.
Donc, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est pas comme savoir guérir le VIH.
Il
ah,
y a toujours
c'est
un
l'extrême.
Avec elle,
donc oui, c'est ça. Mais moi, je dis que c'est un sport extrême à guérir comme ça, parce que ce sont 7 personnes qui ont eu la leucémie, déjà la greffe de cellules souches n'est pas facile. Ils ont vécu 10 ans d'intervention médicale et de suivi pour essayer de trouver est-ce qu'il y avait une trace de VIH dans leur corps. Mais la personne que j'ai vue, donc qui était le deuxième à avoir le greffe, qui s'appelle le patient de Düsseldorf, Marc Frank, était tellement bon. Donc, il a donné son témoignage, donc avec humour. On a ri tout le long de sa présentation. Mais ce qu'il dit, c'est que les gens me demandent « ça veut dire quoi pour moi ne pas avoir le VIH? » Il dit « je suis plus content de ne pas avoir la leucémie.
» oui, tout un point. Ken, comme beaucoup de maladies, on se rappellera pour la COVID-19, c'était la même chose. Je vais prendre un terme très, très business. Les intrasociaux sont souvent très importants dans le succès ou le non-succès d'un traitement ou dans la guérison, la non-guérison. Et pour le VIH, ça joue beaucoup, les facteurs socio-économiques et tout ça. Et ça, est-ce qu'on en parle et est-ce que les gouvernements font assez là-dessus?
Je pense qu'on a perdu de vue ici l'importance du VIH. Donc, le VIH nous a enseigné beaucoup de choses sur l'interaction des facteurs sociaux avec la science et la médecine, mais il semble qu'on a perdu dans les yeux des décideurs l'importance. Donc, le VIH n'est pas si important ici. Et donc, on le laisse à côté, on le laisse à ce niveau d'infection basse, mais toujours présent. Donc, on ne fait pas attention aux impacts sur la santé d'avoir un toit, d'avoir suffisamment d'alimentation.
C'est abominable tout ça, là.
C'est ça. Donc, il y a toutes ces choses qui sont des facteurs, comme on dit, des déterminants sociaux de la santé, et on ne fait pas assez d'attention pour les gens qui sont déjà malades, mais imagine les gens qui sont en santé pour protéger leur santé.
J'aimerais, peut-être pas conclure ça, mais d'y aller. Les gouvernements n'ont fait zéro campagne. On sait que le fameux I égale I, indétectable égale intransmissible, ce qui veut dire qu'une personne sous traitement dont la charge virale est indétectable ne transmet pas la maladie, même dans les relations sexuelles sans préservatif. Excuse-moi, là, j'essaie de le résumer assez rapidement. À ce que je sache, moi, je n'ai pas vu de campagne de la part de nos gouvernements là-dessus. Ils nous ont promis de faire bien des choses. Puis le deuxième problème, c'est la criminalisation, comme on l'a dit, de la non-divulgation. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ou 4 ans qu'on en parle. Ça a été promis il y a 2 ans et il ne se passe rien.
C'est ça. Ce qui est passé en criminalisation, c'était un sondage public. Mais ce qu'on a vu par la suite, c'était vraiment leur interprétation des résultats. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour dire qu'il y a deux opinions. Et donc, il y a d'un côté 90% des réponses qui disent que c'est mauvais, mais il y a ces autres réponses. Yeah. Et donc, moi, j'ai trouvé un peu trop d'efforts de leur part de dire que c'est vraiment un équilibre difficile, mais ils n'ont pas proposé de projet de loi pour le changer. Et entre-temps, on a changé de ministre de la Justice. Donc, ça, c'est difficile. On trouve souvent avec les gouvernements qu'il y a des limites de ce qu'ils sont prêts à dire dans leur nom. Parfois, ils nous financent pour faire des choses. Ils nous financent de façon inadéquate pour le faire. Mais on a eu une injection d'argent de l'Agence de santé publique pour reprendre notre campagne I égale I à la Coxida cette année.
Mais pourquoi ce n'est pas eux qui le font? Il me semble que c'est pas que le Coxidon n'est pas crédible, mais c'est quand même le gouvernement. Il y a une valeur.
Il y a une valeur que ça soit signé par le gouvernement aussi, mais ils sont toujours inquiets de qu'est-ce que le reste de la population va penser de nous. Il y avait, dans les années de Stephen Harper, il y avait tout un développement d'une campagne anti-stigmatisation qui, à la fin... le premier ministre de l'époque a dit non, on ne va pas faire ça. Donc,
on conclut là-dessus. On sait qu'en 2030, l'ONU SIDA aimerait qu'on éradique la transmission du VIH. Puis là, on s'entend, c'est-à-dire on n'éradiquera pas le virus, mais au moins la transmission en atteignant ces fameux 95. Sans rentrer dans les détails, je regardais les chiffres au Canada, au Québec surtout. On va plutôt dans l'autre direction. Le nombre d'infections augmente. On va-t-il l'atteindre, cet objectif-là?
Mais pas sans plus d'attention et d'investissement. Donc, les gouvernements doivent revenir à la table et discuter avec les communautés et les praticiens et les scientifiques et investir comme il faut. Et pensons aussi à la solidarité internationale, est très important. L'année prochaine va avoir lieu la prochaine conférence de renflouement du Fonds mondial. Est-ce que le Canada va être là? Est-ce que le Canada va encore augmenter sa contribution? On a eu tellement de gains, surtout en Afrique, mais surtout dans les pays en développement. Je pense que la différence entre 9 ans, c'est qu'il y a 9 ans, il y avait 47% de personnes vivant avec le VIH qui étaient sous traitement, et cette année, 77%. Ouais. Donc, c'est ça qu'on fait avec l'investissement à la solidarité. Si on recule sur ça, et il y a des signes dangereux dans le monde de recul sur ce genre de solidarité, on risque de perdre les avancées. Et d'aller en arrière.
Et les personnes qui sont sous traitement ne transmettent pas la maladie. On est en train, c'est ça l'idée. Ken Montes, ineffable directeur général de la COXIDA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.